Diambulation.
Bonjour et bienvenue dans ce programme hebdomadaire de reportage Diambulation sur Radio Diwa 107.5 FM et rdwa.fr en ce dimanche 21 décembre 2014. Aujourd'hui, une diambulation très rédactionnelle et cependant hors les murs. Un micro de Radio Diwa est allé écouter ce qui se disait à la ZAD de Chambaran, sur la commune de Roibon en Isère, à peu près 90 km à vol de drone ou de supercoptère et 120 km de dit par la route. Du côté de la résistance à la destruction de la forêt, tel est notre parti pris. J'ai décortiqué pour vous plusieurs textes d'analyse sur le projet de Roibon et sur les Center Parcs en général. Je vous renvoie donc au texte de la revue de presse très fournie sur le site ZAD Roibon et en particulier, en descendant de la ZAD, Procenter sur l'aire de Maréchal nous voilà, derrière Center Park, un groupe en difficulté qui survit grâce au cadeau de l'État et, pour faire grossir sa bulle, Center Park drague les pouvoirs publics.
Toujours plus. Aujourd'hui, l'entreprise est propriétaire de plusieurs labels. Maeva, Apart Hotel Adagio, Sun Parks, ainsi que la société néerlandaise Center Parks Europe, achetée en 2001 par Pierre et Vacances, grâce à l'aide d'une filiale de la banque allemande Deutsche Bank. Center Parks gère actuellement 20 domaines, dont 4 en France. Mais dans l'Hexagone, deux autres sites sont en construction, celui de Roibon et un autre dans la Vienne. Pierre et Vacances souhaitent en édifier 3 autres, dans le Jura, en Saône-et-Loire et dans le Lot-et-Garonne. Puis, en Seine-et-Marne, le groupe va développer un gigantesque projet, il s'appellera Village Nature. En réalité, les résultats économiques des derniers exercices n'ont pas été brillants. Pierre et Vacances a accusé 27 millions d'euros de pertes sur l'exercice 2011-2012 et 47 millions d'euros sur celui de 2012-2013. Le résultat net publié début décembre pour la période 2013-2014 indique une perte de 23,3 millions d'euros. Gourmand Dentaire, la branche écotourisme de Pierre et Vacances, l'est aussi en argent public. Le groupe est un champion des montages financiers, souligne Philippe Debarre, chargé de mission à l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques de Lorraine, auteur d'une étude sur l'implantation du Center Parks du domaine des Trois Forêts en Moselle. Cela peut paraître surprenant, mais ici, le groupe n'a déboursé que 25% du coût total du projet. Sa stratégie, un brin alambiqué, est bien huilée. Explication en 5 étapes.
Étape 1. Chercher un territoire déshérité. Loudun dans la Vienne, Roibon en Isère, Poligny dans le Jura. Compte en commun les sites sur lesquels le groupe Pierre et Vacances décide de s'implanter. Le déclin économique qui frappe ses bassins de vie. Dans le cas isérois, on parle d'une zone extrêmement déshéritée, ni touristique comme les stations de montagne, ni industrielle comme à Grenoble. Quant au village de Roibon lui-même, qui par le passé vivait de l'industrie textile, le pronostic vital est engagé. La moitié de la population a plus de 50 ans, le nombre d'habitants a chuté de 1500 à 1300 ces 10 dernières années. Entre 2000 et 2012, la dette de la commune a explosé, passant de 599 euros à 5200 euros par habitant. Étape 2. De l'emploi, oui. Mais quel emploi? Qu'en sera-t-il des 700 emplois brandis par un certain futur centre de vacances pour justifier des cofinancements publics et justifier de dévaster des parcelles naturelles? L'encadrement sera pourvu par promotion provenant d'autres centres. Les amuseurs, chargés de distraire les gens riches qui s'ennuient, seront des professionnels indépendants et des contrats aidés d'accompagnateurs. Le gros du travail d'espaces verts sera mis aux moins coûteuses des entreprises spécialisées de la région. Restera pour Roibon et localité de proximité des autres centres l'offre de quelques emplois aidés et de prestations de ménage, de services de restauration divers, jusqu'à des heures extrêmement tardives. Emploi morcelé, emploi sous-traité, emploi déqualifié, emploi sous-payé, qui disloquent la vie privée, qui nécessiteront de lourdes durées de trajet domicile-travail et sur siège éjectable. Et le reste de la forêt de Chambaron sera colonisé, quadrillé de parcours à VTT, en quad, à cheval et d'inévitables golf, cours de tennis et autres. Center Park, ce sont des petits salaires et des petits horaires. Parmi les salariés du Center Park de Moselle, 60% touchent le SMIG horaire, dont près de la moitié seulement 319 euros par mois, du fait d'un contrat de travail hebdomadaire de 9 heures en tant qu'agent technique de nettoyage. Les 697 emplois promis par Center Park en Isère tombent à 468 une fois convertis en équivalent temps plein. Ce sont des postes en pointillés qui impliquent beaucoup de trajets. En Moselle, l'INSEE a relevé un turnover de 30% chez les employés, tandis que ces dernières années, la vie du Center Park de l'Aisne a été émaillée par des conflits sociaux, les salariés dénonçant en 2012 de graves problèmes de salaire et de conditions de travail. Sur les retombées économiques au-delà des emplois directs créés par le chantier, puis sur le site, l'implantation d'un Center Park pourrait entraîner des retombées économiques pour les territoires ruraux. Seul bémol, Pierre et Vacances promettent des séjours passés à Bulé plutôt qu'à Vadrouillet. Le système incite à vivre en vase clos. Une étude réalisée par le groupe en 2012 confirme 76% d'entre eux n'envisagent pas d'escapade hors du site. On observe clairement une tendance chez les consommateurs à préférer l'expérience simulée, vécue dans un contexte de plus en plus spectaculaire et extravagant, à la réalité. L'association Droit Bon a aussi estimé le montant cumulé des subventions publiques, directes et indirectes, dont Pierre et Vacances pourra bénéficier pour le seul Center Park de Roibon. Ramené au nombre d'emplois allégués, ça donne un ratio de plus de 243 000 euros par emploi. Dans le Jura, on devrait rester autour de 255 emplois équivalents temps plein. Cela ferait 344 300 euros par emploi créé, 17,5 années de SMIG. Parallèlement, dans la Vienne, le Center Park est censé créer 600 emplois. D'après les informations parues dans les médias locaux, le budget total du projet est de 300 millions d'euros, dont 138 millions d'argent public. Chaque emploi coûterait donc 230 000 euros à la collectivité. Où sont les centaines de milliers d'emplois promis? Au nom de l'emploi, les grands travaux inutiles? Au nom de l'emploi, Disneyland se fait payer une gare TGV? Étape 3. Se faire désirer. Tandis que ces projets se concrétisent dans l'Est, Pierre et Vacances prospectent dans le Lot-et-Garonne. Entre les communes des Landes, de Gascogne et celles du Val d'Albert, semaine après semaine, la presse locale relaie les appels du pied des élus et les hésitations du promoteur. La Saône-et-Loire et le Jura ont connu cette phase de suspense. Finalement, les deux sites auront été retenus. À la région Rhône-Alpes, on parle même, sous couvert d'anonymat, de chantage à l'implantation et à la création d'emplois. Avant de nuancer, c'est un cas classique de mise en concurrence territoriale. Si le Center Park ne trouve pas son compte ici, il s'implantera ailleurs. Étape 4. Faire financer les infrastructures par les partenaires publics-privés. Pour décrocher la timbale, les élus sont prêts à débourser. D'un territoire à l'autre, leur soutien prend des formes variées. Dans la Vienne, les collectivités se sont laissées tenter par le partenariat public-privé. Le complexe touristique passe par une société d'économie mixte qui réunit l'ensemble des collectivités. Dans un premier temps, chacun verse son obol. 19,3 millions pour le département, 13 pour la région Poitou-Charentes et 1 million pour la communauté de communes. À cela, s'ajoutent 15 millions de subventions versées directement par l'État. Une fois cette somme rassemblée, les collectivités peuvent lever des fonds auprès d'investisseurs publics ou privés, comme le Crédit Agricole ou la Caisse des dépôts et consignations. Finalement, les 138 millions d'euros de coûts d'infrastructure seront pris en charge par la société d'économie mixte, dans laquelle Pierre et Vacances n'a pas mis un sou. En Isère, le montage financier diffère. Le département se porte directement acquéreur pour 7 millions d'euros des parties communes du futur complexe. De son côté, la région Rhône-Alpes a décidé de verser en 2009 une subvention du même montant au titre du soutien à l'emploi et au développement durable. De son côté, le syndicat des eaux investit gros pour construire une nouvelle station d'épuration. À l'image des autres collectivités, la commune de Roibon se plie en quatre pour accueillir Center Park. Pour les besoins du projet, le plan local d'urbanisme a été révisé et le terrain sera vendu 30 centimes le mètre carré contre 18 euros pour des particuliers. De son côté, Center Park revendra ses cottages plus de 3 000 euros le mètre carré. Étape 5. Faire financer les cottages à grand renfort de niches fiscales. On touche alors la deuxième astuce du groupe. Center Park ne finance pas lui-même ses résidences hydriques. Un système qui a lui aussi largement bénéficié de la générosité des pouvoirs publics. Le principe. L'acquéreur du cottage signe un bail pour 9 ans, pendant lesquels Pierre et Vacances gèrent le bien et lui reversent un loyer. Pendant toute cette période, le propriétaire bénéficie d'attractives réductions d'impôts. La niche dite « Sancy Bouvard », fortement contestée par quelques députés, le dispositif devait arriver à échéance en 2012. C'était sans compter l'influence de Gérard Brémond. Le 30 octobre 2012, l'homme d'affaires était reçu dans les bureaux de Jérôme Cahuzac. Le 14 novembre, celui qui était alors ministre délégué du budget présente devant l'Assemblée un aménagement prolongeant le dispositif Sancy Bouvard. Le texte est adopté dans la foulée. En matière de lobbying, le PDG de Pierre et Vacances n'en serait pas à son premier coup d'essai. Selon le journal Les Échos, qui en 2007 dressait son portrait, certains textes sont surnommés les amendements Brémond dans les couloirs de l'Assemblée. Dans les Center Park en projet, comme ceux de la Vienne et de l'Isère, les investisseurs institutionnels, non concernés par la niche fiscale, achètent plus de cottages que les particuliers. Parmi eux, la Caisse des dépôts et des consignations. La Caisse des dépôts et des consignations est censée utiliser l'épargne des Français, notamment le livret A, pour financer des projets d'intérêt général, comme le logement social. Là, elle sert clairement un intérêt privé. Niche fiscale, investissement institutionnel, subventions et participation directe des collectivités pourraient soutenir l'artisanat, les SCOP, renforcer les circuits courts, développer un écotourisme mieux réparti sur le territoire et mettre en avant les atouts de la région. Retour de boomerang. Ce qui est sûr, c'est que nombre de personnes ont trouvé très attractives des conditions proposées par la société Center Park. Mais les surprises surviennent ensuite. Au bout de 9 ans, le bail est en fait reconduit. Les équipes n'hésitent pas à faire des économies sur le dos des propriétaires. Depuis 2 ans, ceux qui arrivent en fin de bail se voient infliger des baisses de loyer spectaculaires, 40% de diminution. En outre, le groupe leur impose parfois le paiement des charges, ainsi que des travaux de rénovation. Résultat, 15% des investisseurs préfèrent sortir du système, quitte à perdre leurs avantages fiscaux. En descendant de la ZAD.
En descendant de la ZAD.
Voilà, avec mon pote Nicolas, on est redescendu. Et c'est vraiment le mot, de la ZAD de Roibon. Comme on revient d'un autre monde. Ce n'est plus un autre monde possible, mais un autre monde déjà là. Je vais vous raconter. On s'est fait arrêter à 10 bornes avant Roibon. Sous le képi, un œil suspicieux, mais attentif, avait pu voir des dizaines de kilos de légumes bio. Merci Antoine et Marie-Jo. Une cuisinière, une bonbonne de gaz, et tout le matos qu'il faut pour aider les zadistes dans le coffre de la bagnole. Il me dit « Va falloir jouer carte sur table !» On tourne, on visite la campagne, on a pu échapper au contrôle. Nous y sommes presque. Plus que 1,5 km. Une mégane bleu marine barre la route à un croisement. Ils sont 4. Ils nous intiment l'ordre de nous arrêter. On obtempère. L'un d'eux nous filme. Les plaques de la bagnole, notre gueule, le contenu, les papiers. Où allez-vous ? À la ZAD ? Ce ne sera pas possible. La voiture doit rester là, mais vous pouvez monter à pied. Commencez à monter vos affaires. Ce n'est pas bien loin. On est là pour empêcher les activistes, SIC, de la manif, de venir attaquer la ZAD. Si vous voulez, demandez un coup de main aux ZADistes. Ils pourront descendre vous aider à décharger. Ambiance décontractée, les bleus en mode RP, relations publiques. On rigole avec eux. Jusqu'au 18 décembre, date de la décision du tribunal administratif de Grenoble, il ne se passera rien. Après, nous disent-ils, on monte à pied, un sac dans chaque main, on arrive au bout de 10-15 minutes de marche. À l'entrée de la ZAD, un garçon, une fille, décore le poste de garde. Calmement, sans stress, mais ça bosse bien. On se présente, on se dit bonjour, bien content de retrouver la maison forestière de Roibon qu'on avait vue investie par nos amis zadistes lors de la manif du 30 novembre. Les barrières ont été dressées tout autour, la vie s'est organisée. Les travaux du chantier ont bien cessé. Une ambiance calme, décontractée, sérieuse et souriante, respectueuse de chacun y règne. 2 heures plus tard, on nous prévient que le barrage s'est levé. La voiture est déchargée. Question nourriture, il ne manque de rien. Et pour que rien ne se perde, ils font des séances de stérilisation de bocaux avec l'excédent des légumes. Des gens passent dire bonjour, aidés. Deux journalistes néerlandais font leur travail. L'après-midi, on part avec une poignée de zadistes faire le tour de la propriété. Difficile de dire cependant quel pourcentage de la forêt a été touché sur les 130 hectares à aménager. Les balafres dans le paysage sont bien visibles. Triste paysage. Des chênes centenaires, rangés par centaines, comme à la parade, témoignent en silence de la violence de l'assaut. Sauf certains, épargnés par la patte du metteur en scène, mégalomane, de la nature domestiquée. Par contre, aucune trace de construction, d'imperméabilisation des sols, comme la création de parkings ou de voiries, de bétonnage irréversible n'a été entreprise. Nous voici en bordure de clairière, un poste de guet. Pas sûr que les futurs proprios apprécient le toit en forme de bâche PVC noire à la forme vaguement avachie. Avec Nico, tout sourire, on file un coup de main pour reprendre tout ça. Au bout de 2 heures qu'on n'a pas vu passer, entre rigolades, entraide naturelle, sans hiérarchie ni pression, la couverture a pris une bonne gueule. Elle semble prête à affronter la pluie et la neige. Puis, on part visiter un autre poste de guet. Celui-là est beaucoup plus élaboré. Plancher, 15 mètres carrés, structure bambou, et 2 magnifiques miradors à au moins 8 mètres du sol. Un pont de singe relie les deux. De la belle ouvrage. Relève des équipes, amitiés qui se croisent, frères et sœurs d'armes sans armes. Chemin boueux, zone humide bien nommée. On glisse sur la glaise, on rentre à la maquisade, à la nuit tombante. J'avais fait, il y a fort longtemps, l'expérience des squats berlinois. Je retrouve, à 1500 km de là, 25 ans plus tôt, le même mélange fait de sérieux et de détermination. Dans la voiture, sur leur chemin du retour, je repense à cette réflexion du maire UMP de Roibon, parlant des zadistes. Je comprends pas ces jeunes qui ne travaillent pas. J'ai envie de lui dire, et ces rentiers qui travaillent pas, ça ne vous dérange pas, hein, monsieur le maire? C'est certain. Il y a des mots que vous ignorez. C'est le mot solidarité. Quand il est dans votre bouche, c'est juste de la bonne vieille morale, de la charité, une opération de mystification sociale. Ici, c'est tout le contraire. La solidarité est une façon de vivre, un mode d'action, un mot d'ordre. Les zadistes ne travaillent pas. Ils n'ambitionnent pas de postuler à une place d'animateur dans un center park soi-disant payé 80 euros par jour et de quémander pour un boulot d'agent d'entretien. 2 fois 5 heures pour faire les chiottes, le vendredi et le lundi, payé 240 euros par mois. Ils ne travaillent pas, mais ils abattent un boulot énorme en préservant la nature, en dénonçant la collusion, pouvoir de l'État et intérêts privés, en s'opposant par leur présence à la violence des fausses évidences d'un progrès répressif et régressif. Ils ont des amis qui viennent leur porter le nécessaire dont ils ont besoin. Ils nous l'ont dit. On vit le plus sobrement possible. On vit avec très peu. Ils n'ont pas besoin de 4x4 rutilants et immaculés pour arpenter la campagne. Ils marchent lentement avec leurs chiens. Partout ils sont chez eux. Ils sont engagés sans arrogance. Ils ressemblent à JB, un gamin cabossé par la vie, un sourire radieux scotché à la bouche. Comme beaucoup d'autres, ils ont trouvé 1000 raisons de vivre ici. Sur fond de Jean-Roger Cossimon, les cœurs purs, la commune est en lutte, et bordel à cul, je referme ici le compte-rendu d'une journée bien remplie.
Avis à tous et à toutes. À ce jour, au vu des pratiques de désinformation appliquées par de trop nombreux médias et de la manipulation des informations divulguées par certains activistes, nous souhaitons informer de manière officielle que nous nous attacherons dorénavant à communiquer par nous-mêmes vidéos, prises de position et rapports des activités et de la situation vécue par les occupants de la maquisade. Dernières actualités de la lutte. Rappel. Nous luttons pour l'arrêt du chantier de déforestation de la forêt domaniale des Chambarans sur la commune de Roibon, ainsi que l'abandon du projet d'implantation d'un center park sur cette zone humide par le groupe Pierre et Vacances.
Jeudi 11 décembre 2014. Petit 1. Ce jour, le tribunal administratif statuait sur un report, au jeudi 18 décembre, des comptes rendus d'audience concernant les recours en référé visant à l'abandon du chantier déposé par le PCSCP pour des Chambarans sans Center Park la FRAPNA, Rhône-Alpes, Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la Nature, et de la Fédération de Pêche de la Drôme, ainsi que l'Union Régionale des Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche. À cette date du 18 décembre, la décision sera un tournant majeur dans la lutte. En effet, le compte-rendu d'audience statuera sur la légitimité juridique de la déforestation et de la construction du parc. Pour nous, occupants de la ZAD, cela ne change rien. Car, dans la légitimité de demain, nous sommes tous responsables de l'état de notre planète et de tout ce que nous en faisons et nous en ferons. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Petit 2. Ce même jour, en Seine-et-Marne, M. Valls, Premier ministre, déclarait au conditionnel son enthousiasme et sa confiance quant à la qualité des projets de la structure Pierre et Vacances lors de son discours de pose de la première pierre du nouveau projet Pierre et Mickey. Avant d'ajouter que les opposants ne pouvaient pas prendre en otage des chantiers soutenus par les élus.
Synthèse. Alors que le CNPN, Conseil national de la protection de la nature, qui est directement rattaché au ministère de l'écologie, a rendu un avis défavorable à l'unanimité dans son rapport concernant le chantier de Center Park à Roibon, et que l'actuel ministre, Ségolène Royal, s'est retiré du jeu en positionnant la décision au niveau local, M. Valls continue son coup de charme aux grands patrons et leurs millions de subventions publiques en proliférant des menaces tout juste masquées aux opposants à ce projet aussi inutile que financièrement désastreux. Compte tenu de la demande de certains parlementaires et des prises de parole du Premier ministre et de son homologue de l'Intérieur, tout porte à croire que nous risquons d'être la cible de tentatives de déstabilisation dans les prochaines semaines, et ce, en fonction notamment du jugement de ce jeudi. Malgré le vote du Conseil régional, malgré l'avis du CNPN attaché au ministère de l'Écologie, malgré les multiples prises de position, tant officieuses qu'officielles, demandant l'arrêt des travaux jusqu'à la date du compte-rendu d'audience du 18 décembre, chaque jour, des tentatives d'intrusion sur le chantier de camions de remblai et de tronçonneurs pédestres tentent de percer de nouvelles entrées sur site. Et ceci sous le regard attentif de la gendarmerie, qui, aux ordres du préfet, continue son travail de surveillance, de contrôle et de fichage des passantes et passants. Notre souhait est simple, que les millions d'euros d'aide soient reversés à la communauté de communes et non à des privés, pour qu'elles construisent ensemble une autre forme d'écotourisme à échelle humaine, que l'on ne dénature pas plus encore notre planète pour le profit.
Qu'en sera-t-il demain et les prochains jours ? Nous continuons et continuerons à défendre la zone. Et nous aurons le dernier mot, grâce à celles et ceux qui nous soutiennent et celles et ceux qui se battent en parallèle d'une façon plus conventionnelle. Nous ne sommes pas sur ces barricades parce que nous y trouvons un salaire ou parce que c'est le seul emploi qu'on nous propose. Nous sommes là par conviction. Et si nous faisons face à l'ordre établi, c'est parce que nous avons confiance en demain, en la solidarité et en la générosité de nos soutiens. Nos convictions, notre envie d'un monde meilleur pour les prochaines générations, notre unité face à ceux qui défendent l'oppresseur de la vie sur Terre pour le profit immédiat et l'esclavagisme moderne. Toutes ces choses vous font peur ? Elles devraient vous réjouir, parce que ce monde nouveau pour lequel nous nous battons est juste devant vous. Quand la loi est injuste, il est du devoir du peuple de se dresser pour la modifier.
Que vos choix deviennent vos espoirs et non vos peurs, disait Nelson Mandela. Toutes et tous, nous sommes déterminés à lutter collectivement pour reprendre possession de nos vies, de nos terres volées. Comme à Notre-Dame-des-Landes, au Testé, la Notave, à la ferme des Mille Vaches, la ferme des Bouillons et internationalement sur le territoire du Chiapas ou en Amazonie, à Belo Monte, nous refusons de nous soumettre aux dictats des finances et puissants de ce monde. Nous désirons et voulons vivre nos espoirs. La ZAD est un laboratoire d'idées et de projets fantastiques et galvanisants où nous assumons un mode de vie horizontal. Nous prenons nos décisions toutes et tous ensemble en assemblée géniale.
Cependant, nous sommes toutes et tous très différentes, avec des modes d'action et de pensée pouvant parfois être contradictoires. Mais nous avançons tous dans la même direction, l'arrêt définitif de tous ces projets inutiles et imposés. C'est pourquoi nous pratiquons au quotidien des échanges fraternels de savoir et de compétences afin de bâtir les valeurs de partage et d'équité d'un monde meilleur sans aucune distinction. Nous guidons nos pas vers les sentiers de l'autogestion afin de détruire ce qui nous rend esclaves et dépendants. Et c'est ainsi que la liberté se prend. Jamais elle ne se donne. Organisons-nous. Vivons nos rêves. La ZAD est partout. Et chez toi aussi. Ne vivons plus comme des esclaves. Rejoignez la résistance. Notre terre et nos vies sont des zones à défendre. Les lutins et lutines en direct des bois de Roibon.
Sème ta ZAD!
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voici tout de même les actualités du mercredi 17 décembre 2014. En ce début de semaine où le temps nous a été favorable, l'occupation continue de plus belle. Le chantier est toujours bloqué et nous y sommes bien postés. Nous recevons par conséquence la charmante visite matinale de notre fidèle huissier venant constater notre présence déterminée. Les contrôles routiers quotidiens des forces de l'ordre ainsi que la surveillance aérienne, hélico, avion sont devenus routiniers. Cela dit, nous restons sur le qui-vive. Nous essayons de maintenir une relation cordiale avec les locaux. Cependant, nous déplorons des propos négatifs et ou mensongers véhiculés à notre égard. Nous devons faire face à de graves rumeurs concernant des agissements à caractère violent subis par un jeune riverain alors que nous tentons par tous les moyens un rapprochement pacifique et constructif avec les locaux et les Roibonnais. Nous imputer cela est un mensonge au moins égal à celui de la justification des dépenses publiques par certains élus d'ici et d'ailleurs. Nous déplorons que de tels actes puissent être commis envers des personnes innocentes et tenons à exprimer notre sympathie pour ce jeune homme et sa famille. La boue ne fait pas le zadiste. Nous vous invitons à enfiler vos bottes et à patauger à nos côtés. Ici, les cabanes poussent comme des champignons et les dortoirs s'agrandissent. À la maquisade, les idées foisonnent, fusent et fusionnent. D'ailleurs, oyez, oyez, braves gens.
Oyez, oyez, braves gens.
Du 21 au 31 décembre, la maquisade vous offre ses barricades pour partager et transmettre. Savoir-faire, idées et bonne humeur. Petits et grands, des ateliers vous attendent. Amenez vos expériences, compétences et envies. Et surtout, n'oubliez pas vos bottes, couvertures et grosses chaussettes. Un programme sera publié prochainement. Affaire à suivre. Nous remercions encore et toujours la participation et le soutien important de toutes et tous. Au plaisir de vous voir et de vous revoir. Il n'est jamais trop tôt et jamais trop tard. Les esprits des bois. Je me trouve à la maquisade en présence d'une habitante qui va nous parler un petit peu de ce qui va se passer entre le 21 décembre et le 31 décembre. Vas-y, présente-toi.
Alors, du coup, moi, c'est Camille. Je suis là depuis un certain moment pour m'opposer au projet d'un center park ici à Chambaran, mais aussi à l'absurdité de ce genre... le projet en général. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce qu'on a collectivement projeté pour la semaine du 21 au 31. Donc, pour rester sur cette zone à défendre, en période en plus de fêtes et de consommation, on a essayé de prévoir des moyens de se réunir assez alternatifs à ce mode de consommation. Et du coup, pendant... toute cette période-là, pendant 10 jours, on accueille toutes les personnes qui veulent venir ici pour faire des ateliers. Il y a des chantiers participatifs, il y aura des concerts, il y aura des échanges de savoirs, des partages de savoirs sur des sujets précis. Et du coup, il y a déjà des choses qui sont fixées. Il y a des gens qui ont déjà prévu des ateliers. Il y a des chantiers participatifs qui ont déjà démarré pour certaines choses qu'on doit rénover, pour... Ça peut être très bien des conserves, les ateliers, il y a des ateliers sur l'éducation à la citoyenneté, des ateliers sur plein de thématiques différentes, en fait c'est très très large. Ben, on accueille encore les gens qui ont des choses à partager ou qui ont envie de communiquer sur certains sujets. Ça peut être des sujets très précis, conférence sur le TAFTA, s'il y a des choses qui sont précises, c'est aussi un lieu de convergence des luttes. Donc voilà, pendant 10 jours, on va essayer aussi de fêter un rassemblement et une solidarité en profitant pour échanger sur nos compétences communes.
Donc c'est vraiment sur le partage des savoirs et la participation concrète de tout le monde dans des chantiers comme des chantiers de construction, apprendre à construire dans les arbres, apprendre à grimper dans les arbres et a priori aussi sur des thèmes qui à première vue n'aurait rien à voir avec Roibon, des discussions sur des thématiques beaucoup plus larges.
C'est ça en fait, pour l'instant sur ce qu'on a fixé à peu près, tout est modifiable. On va essayer aussi de se mettre des temps de débat sur des thématiques, soit en lien sur la vie quotidienne et sur le vivre ensemble, des thématiques du style l'égalité homme-femme, à partir de quel moment on sent qu'il y a des discriminations, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, sur la transmission en général, sur les formes de transmission classiques qu'on connaît culturellement depuis qu'on est enfant en fait. Sur des projets inutiles, sur les mots aussi qu'on utilise au quotidien, sur la portée des mots qu'on a pensé pour nous aussi. Donc c'est...
Un gros travail sur la communication, sur les outils de communication différents qu'on peut avoir.
C'est ça, mais après de manière formelle ou informelle en fait. C'est aussi le lieu où on se réunit. Il y aura des choses proposées plus ou moins formellement par des personnes qui sont formées pour transmettre de manière différente ou pour transmettre sur des sujets comme la permaculture, comme ce que je disais sur des sujets égalité homme-femme. Mais aussi, on veut laisser énormément de temps aux gens de pouvoir discuter sur ces sujets-là informellement, que ce soit des ateliers pratiques comme apprendre à grimper, parce que pour tendre à l'autogestion et à des nouvelles formes de vie en collectif, toutes ces compétences-là sont à prendre, mais aussi toutes les réflexions qui s'y greffent, quoi.
Donc tout ce qui tourne autour de la vie en collectivité, du partage, de la communication, des assemblées générales quotidiennes. Et il y a aussi, a priori, beaucoup de discussions informelles, beaucoup de travail déjà entre les habitants de comment vivre ensemble. Comment ça se passe globalement, l'entente de tous ces gens qui, a priori, viennent de milieux vraiment différents, de cultures vraiment différentes. Comment ça se passe globalement? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre l'autre? Et est-ce qu'il y a des discussions qui sont déjà mises en place, autant formelles qu'informelles?
Est-ce que tout le monde arrive à comprendre l'autre? Je pense qu'on ne peut pas avoir cette prétention-là encore. Mais je pense que c'est justement le travail qui est fait, on construit quelque chose de différent avec ces outils-là, sur les assemblées générales. C'est un outil parmi tous ceux qu'on essaye d'utiliser pour s'entendre, pour faire passer les informations, et pour se rendre compte, mais encore pour revenir au mot, de quel terme on utilise, qu'est-ce qu'on met derrière. Et du coup, il faut déconstruire avant de reconstruire aussi. Et je pense qu'en formel et en informel, on essaye de vraiment déconstruire des acquis, des choses qui sont déjà figées et fixes, et pour construire quelque chose collectivement, sur des commissions, sur des thématiques qu'on approfondit, en petits groupes, on fait des retours, on essaye au maximum de ne pas avoir de concentration d'informations sur des groupes, que tout le monde soit sur un pied d'égalité sur les informations qui circulent sur cette zone-là, sur ce collectif qui est naissant, quoi. Tout le monde se comprend, en tout cas tout le monde tente de le faire, et du coup de changer nos codes de communication, ce qu'on nous a donné, quoi.
C'est un petit peu ce que vous appelez le fonctionnement horizontal.
C'est ce à quoi on tend, et c'est pour ça que, comme on n'a pas du tout été habitué et que les modes hiérarchiques sont très inscrits dans nos sociétés, c'est de là qu'on est en plein dans l'expérimentation, en fait. Pour tendre à cette égalité de niveau de chaque individu. Et pour créer un collectif, il faut être dans l'expérimentation totale. Et c'est pour ça que ça fonctionne, tant qu'on est persuadé que c'est pas acquis. C'est pas bon, quoi. On se dit jamais, ça y est, on a les bons outils, ça suffit, maintenant on est sûr que ça va tenir.
C'est un travail permanent et une remise en question individuelle et collective permanente, en fait.
Ouais, c'est ça. Il faut écouter. C'est pour ça que les assemblées générales, c'est super important, parce que on se rend compte aussi que bah, y a des choses qui n'ont pas été entendues ou ressenties de la même manière pour une personne que pour une autre. Du coup, bah, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut peut-être se remettre en question, réessayer autre chose. Ça nous évite de reproduire les mêmes erreurs constamment, en fait. Donc, des erreurs, on en fera. Mais en fait, on essaye de pas les reproduire. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive à y tendre, quoi.
D'apprendre à chaque fois.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Camille.
De rien.
Les Pro Center Park sur l'air de Maréchal, nous voilà.
Les dimanches 7 et 14 décembre 2014, deux manifestations favorables à Center Park étaient organisées à Rohibon. Les organisateurs, l'association Vivre en Chambaran, prétendent faire entendre la voix des Rohibonnais, lesquels seraient, selon eux, à 98% pour le projet de Center Park.
Mais qui était à cette manifestation ?
En dehors de cette association, qui se décrit comme une association de commerçants et d'artisans pour le Center Park, de nombreux partis, associations ou groupes se sont rendus à Rohibon et ont appelé leurs membres à les y rejoindre. Citons-les, l'UMP Isérois, le Parti Socialiste, l'UDI, le Front National, des sympathisants des Bonnets Rouges, le MEDEF, la FDSEA, la CGPME, la Chambre de Commerce et d'Industrie, l'association STOP, la société qui travaille avec des ouvriers et des patrons, et à titre personnel, un grand nombre d'élus isérois qui n'ont pas ménagé leurs appels par tous les moyens mis à leur disposition par leurs fonctions, tels M. Neuder, Barbier, Perrault, Mme Joëlle Huillier, etc.
Mais que veulent ces marcheurs ?
D'après leur slogan, leur pancarte ou leur déclaration aux journalistes, ils revendiquent du travail chez nous, le respect des décisions démocratiques des élus et le rétablissement de l'état de droit face aux zadistes qui occupent le terrain pour le défendre. Mais on a aussi pu entendre d'autres slogans comme « On est chez nous, les zadistes dehors ». On a pu aussi entendre la Marseillaise. Et d'ailleurs, les drapeaux ou ballons bleu, blanc, rouge étaient nombreux dans cette manifestation. Lorsque nous voyons et entendons cela, et constatons la présence d'élus du Front National à la tribune de la mairie de Rohibon, puis en tête de la manif, bras dessus, bras dessous avec les partis institutionnels, nous ne pouvons que nous poser des questions.
L'appel de ces organisateurs ne serait-il pas plutôt un appel à une obéissance aveugle aux intérêts et injonctions du système capitaliste, dont Pierre et Vacances est l'un des grands fleurons actuels du tourisme industriel hors sol ? N'est-ce pas également un appel à un sursaut national, cher aux réactionnaires, contre l'anti-France que représentent pour eux les zadistes sur place ? N'est-ce pas aussi un grand retour du pétinisme auquel nous assistons ? Que nous chantaient les troupes pétinistes dans les années 30 ? Exaltons le travail, exaltons l'union nationale contre les ennemis intérieurs, décliné plus classiquement à travers le fameux « travail, famille, patrie ». Pour défendre Center Park et son monde, les élus républicains n'ont pas hésité à défiler avec le Front National et depuis cette manifestation, aucun parti, aucun élu ne s'est offusqué de cette union sacrée. Mais en fait, les discours de ces gens-là sont-ils si éloignés les uns des autres ? Cette union n'est-elle pas finalement assez naturelle ? Ne faut-il pas s'indigner de la collusion du PS avec le discours fasciste du Front National qui est aujourd'hui repris sans honte de la part de la droite, comme du PS ? On l'a vu pour les Roms, et maintenant sur le thème de l'écologie ou du travail. Prenons quelques exemples sur le thème de l'écologie de ces gens-là. Monsieur Valigny, PS. L'accumulation de réglementations, comme la loi sur l'eau, paralyse l'action publique. Cela ne peut plus continuer. Madame Dordano, Front National. Maintenant, on est gouverné sous le diktat des écologistes. Et Monsieur Sarkozy, UMP. L'environnement, ça commence à bien faire.
Qui prépare le lit de l'extrême droite? Depuis les années 80, le Parti socialiste a aligné son programme économique sur les politiques ultralibérales de la droite. Comme à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, ici en Isère, d'abandon en renoncement, le Parti socialiste, initiateur de ce projet de Center-Park, en est rendu aujourd'hui dans les faits à s'allier avec le Front national pour imposer ce projet voulu par André Valigny. Il peut en arriver à utiliser les mêmes méthodes. Si dans les mairies récemment gagnées par le FN, le milieu associatif voit ses subventions retirées pour cause de lignes sociales ou philosophiques éloignées de celles de ses maires FN, ici, la FRAPNA se voit menacée des mêmes sanctions par les socialistes à cause de son opposition à Center Park. Récemment, le Conseil général de l'Isère, en désaccord avec la métro, vient de faire un chantage inacceptable de ne plus financer le SMTC, prenant le risque de remettre en cause les transports en commun. Discours et méthodes semblables, on comprend alors la fréquentation de ces différents partis. La dédiabolisation du Front National est rendue facile. Les poignées de main deviennent aujourd'hui plus naturelles.
Où est la violence? Aujourd'hui, la dégradation des espaces naturels ne cesse d'augmenter de façon dramatique par la réalisation des projets économiques nuisibles et imposés. C'est la plus grande des violences faites à la planète et aux espèces vivantes à sa surface. La liste des chefs d'accusation pour crimes contre le vivant par le productivisme, le capitalisme privé ou l'État est immense. En France, avec l'extension urbaine, les terres reculent de 25 mètres carrés par seconde. Avec des sols s'imperméabilisant, une destruction de la faune et de la flore qui s'accélère et une émanation de la hausse du CO2, d'après l'Observatoire national.
Notre résistance à ces dégradations sans précédent n'est-elle pas justifiable? Les zadistes se voient qualifiés de personnes violentes parce qu'ils s'opposent à ces projets criminels. Monsieur Perrault, maire de Roabon, Monsieur Neuder, président de la communauté de communes, le député Barbier, imbus de leur statut de légalité donné par les élections ou la délégation, ont lancé là de très graves accusations de terrorisme à de multiples et publiques occasions. Le gouvernement de Vichy, les Allemands dans les années 40-44, qualifiait de terroristes ceux qui résistaient.
Où est la différence? De quelle violence parle-t-on? Ces accusations prennent comme prétexte des Algéco énergiquement vidés, au mot d'ordre de dégager Pierre et Vacances, puis détournés de leurs fonctions, des engins tagués, des piquettes géomètres déplacés ou dérobés, une goutte d'eau pour les zadistes, un fleuve pour ceux qui les accusent. L'extrême droite, les bonnets rouges ou la FDSEA, avec qui les élus ont manifesté à Roibon en bonne entente et avec complicité, ont pourtant des violences autrement plus graves à leur actif. Portiques, écotaxes en flammes. Préfecture attaquée, animaux, ragondins, massacrés à coups de pied devant un ministère, mais aussi des chèvres brûlées vivantes il y a quelques années. Dizaines de tonnes de purins déversées dans les villes. Attaques de bureaux de députés écologistes. Immigrés jetés par-dessus un pont pendant une manifestation FN, ou assassinés par des colleurs d'affiches FN, en pleine rue.
Quel est le coût humain, social et financier des actes de ces gens fréquentables aujourd'hui quand il s'agit de faire front commun contre nous? Pour l'écotaxe, on le sait, 400 millions d'euros pour les contribuables et 250 emplois directs supprimés pour la société EcoMove, sans compter tous les emplois qui devaient être générés par cette taxe. Monsieur Valigny, grand promoteur de l'emploi à Roibon, devant une telle gabégie, devrait quitter le gouvernement.
Où est la violence, sinon du côté de l'État? Lorsque les violences policières contre les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens sont régulières, nous ne comptons plus les blessés. Les hôpitaux de Nantes et d'Albi les ont soignés par dizaines, pour des yeux crevés, des côtes enfoncées ou des tympans éclatés.
À Grenoble, M. Valigny n'a-t-il pas envoyé les CRS contre des pompiers? Avec un bilan lourd, deux pompiers très gravement blessés à l'œil, dont un qu'il a perdu à vie et s'est vu licencié pour inaptitude. Les pompiers sont-ils aussi de dangereux terroristes? À Sivens, un jour de fête, sur un chantier vide de tout engin, notre camarade Rémi Frey s'est mort, tué par une grenade offensive lancée par des gendarmes qui ont eu ordre non de tuer, bien sûr, mais de frapper dur. Ils l'ont fait, sans problème de conscience, toute une nuit. Il fallait, pour le préfet Cazeneuve et Valls, rendre irréversible la situation dans l'avancement des travaux. Ils s'en sont donné les moyens. Nous sommes, nous, opposants aux chantiers nuisibles et imposés, qualifiés de terroristes, de djihadistes verts, par des gens dont la violence sociale est quotidienne et la violence physique tolérée, voire organisée.
À Roibon, la police est pour l'instant calme et non mandatée pour déloger les zadistes de la marquise. Pour combien de temps ? Les autorités n'ont-elles pas décidé de laisser faire ça par des civils, chauffés à blanc par des élus, exacerbant des sentiments identitaires ? On est chez nous. Faisant courir des rumeurs sur les zadistes, hurlant au terrorisme et invitant le Front National à leurs manifestations. Dresser les gens les uns contre les autres, en coupant le peuple en bons travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, et d'autre part les feignants, casseurs et assistés, est déjà en soi un appel à la haine, à la violence. On assiste en ce moment à un renouveau du pétinisme. Sarkozy avait relancé la chanson, le Parti Socialiste la reprend, le Front National la portera au Hip Parade. Le peuple travailleur est à nouveau invité à chanter l'exaltation du travail et de la nation, à se réinventer une fierté dans son travail qui le place dans le bon camp, et à défendre main dans la main avec ses patrons le monde capitaliste, qui en même temps le plonge dans le chômage de masse et la misère, obligeant les travailleurs à se résigner à des salaires et des emplois précarisés. À Roibon, Bonnet Rouge et Association Stop invitent le peuple à se prosterner devant ses dirigeants. Pierre et Vacances, dans un mépris cynique, en expliquant à ce bon peuple « À Roibon, vous ne pouvez qu'être femme de ménage, plongeur. C'est ce que vous valez. On vous l'offre pour revitaliser votre village, et vos enfants feront de même dans des emplois précaires. Mais les cadres de Center Park ne seront pas recrutés à Roibon. »
Il n'y a pas de saut métier. Prenez et soyez-en fiers. Avec les bonnets rouges et l'association Stop, il faut supprimer les syndicats. La concorde sociale corporatiste dans le respect d'un ordre établi par les riches doit remplacer la lutte de classe. Voilà tout ce que n'ont pas vu les médias, en particulier dans ces manifestations. Une deuxième manifestation des pro-Center Park qui a eu lieu le 14 décembre a confirmé nos doutes sur la montée en puissance du fascisme dans leurs rangs. On pouvait voir notamment une banderole, ici, place du Maquis des Chambarans, Oé, patron, artisan, ouvrier, paysan.
Le système capitaliste est une fois de plus en crise. L'histoire nous l'a montré. Nous le savons. À chacune de ses convulsions, il se crispe. Et des périodes fascistes apparaissent, entraînant les peuples dans la haine, les débâcles et la guerre civile. Au cri de « travail, famille, patrie », il veut faire à nouveau défiler le bon peuple collaborateur contre le mauvais peuple qui se bat contre lui. Ce système a fait faillite et sème toujours mal-vie, misère et violence. Ne laissons pas le fascisme s'installer dans le rang des anti-zadistes. Les zadistes ont la lucidité de combattre ces projets nuisibles et imposés et d'ouvrir les portes aux alternatives, à la vie. On retourne sur la ZAD de Roibon, où on peut rencontrer des porteurs et porteuses de lutte dans d'autres régions, comme ici, dans les Hautes-Alpes.
Bonsoir. Mais là... Ah, mais il y a quelqu'un qui dort. Pardon. Il n'y a pas de problème ? En fait, on est là pour relayer un peu l'information de ce qui se passe et dans les Hautes-Alpes. Donc, depuis l'assassinat de Rémi Fraisse, on est sorti dans la rue les lendemains matin, les lundis matin. Il y a eu une mobilisation devant la préfecture pour signaler. On a appelé les médias et tout ça pour signaler qu'on n'allait pas attendre l'autopsie pour déclarer le fait que ça avait été un assassinat et tout ça. On a enchaîné avec une mobilisation le mercredi. La première fois, on avait été une dizaine, une quinzaine de personnes. Mercredi, on était déjà une trentaine. On a enchaîné une les samedis. Les samedis, on était plutôt 70, avec beaucoup de prises de parole. Et l'idée de lancer une coordination. Après, il a été appelé à une assemblée générale qui s'est tenue dans une salle sur Gap, où il y en a eu entre 30 et 40 personnes. Et à partir de là, eh bien, à vu les jours, la coordination contre les grands projets inutiles et imposés, on a décidé de faire une coordination pour pas faire un collectif qui reste stagné ou qui commence à prendre une identité propre, sinon qu'on se disait que, eh bien, avec la diversité des opinions qu'il y a là, eh bien, on s'est coordonné pour quelque chose. Cette coordination a pour but de relayer tout ce qui est soutien aux ZAD et particulièrement en cas de répression. Donc ensuite, on a relayé aussi la mobilisation qui est lancée, elle est testée sur contre les violences policières. Là, on a mis une centaine de personnes qui sont venues. On a projeté des films. Et nettement, on a relayé aussi ce qui se passe pas loin de chez nous. Donc, à Adi, quand il y a eu les violences policières cet été concernant la question de la vidéosurveillance. Et ensuite, à partir de ça, ben, on a continué à faire des rencontres avec les gens de Laragne, de Briançon, d'Embrun, de Châteauroux-les-Alpes, qui nous ont invités à nous joindre à leur mobilisation concernant la ligne THT, dont les chantiers vont commencer en septembre, et qui rejoint un peu la lutte aussi de Lyon-Turin. Donc il y a eu une mobilisation à Embrun, où il y a eu 300 personnes qui sont sorties relationner justement les THT avec les nucléaires. Et ben là, pareil, énorme prise de parole, ça s'est redispatché dans plein de collectifs locaux. Et du coup, il y a une sorte d'articulation qui est en train de se faire depuis Briançon jusqu'à Laragne avec plein d'initiatives locales. Et ben là, aujourd'hui, on se trouve en particulier à venir soutenir aussi ce qui se passe ici à la ZAD des Roibons. On a amené du matériel et tout ça, on vient un peu faire du lien et surtout à savourer un peu qu'est-ce qui est en train de se cristalliser dans les oppositions à tout ce qui est grand projet inutile, mais aussi et d'une façon positive, dans le sens où on dirait qu'ils sont en train de montrer que tout ce que nous on est... c'est des résistants violents, des trucs comme ça. Ben nous, cette violence, on l'assume, et parce qu'on se défend. Mais en même temps, et dans les ZAD, ce qui se passe aussi, c'est tous les côtés constructifs qui remet à plat une vision de la réalité qui n'est pas celle des gens qui résistent.
Alors, une petite précision sur l'association STOP. Donc la société qui travaille avec des ouvriers et des patrons, c'est en fait un mouvement de chefs d'entreprise qui se dit motivé et solidaire, dans lequel il n'y a pas d'ouvriers, dont les présidents ou coprésidents appartiennent à une entreprise qui travaille dans l'environnement et l'autre dans le bâtiment. On mettra un petit mot sur le site de Radio Diwa. Et voilà, Déambulation sur la ZAD de Roibon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours retrouver ce programme ainsi que toutes les émissions de Radio Diwa 107.5 sur le site rdwa.fr. Utilisez le moteur de recherche avec le mot ZAD pour écouter d'autres émissions sur ce thème. Et nous nous retrouverons sans nul doute autour de ce sujet en 2015, année pendant laquelle nous pouvons décider de continuer d'inventer des rapports sociaux et à notre environnement, à l'image de ce qui s'entrevoit dans ces luttes contre les grands projets inutiles ou d'autres luttes sociales dans le monde entier, comme au Mexique ou à Exerchia en Grèce, avec lesquelles, en ce solstice d'hiver, nous marquons notre solidarité. À bientôt. Déambulation.